Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinécure. Vous avez envie de voir un film, mais vous ne savez pas lequel. Vous en avez marre de scroller encore et encore des listes infinies de films qui ne vous disent rien. Pas de panique, je suis là pour vous aider. Tous les premiers mercredis du mois, je vous propose 4 films sans limite de genre ni d'époque, 4 films qui doivent être tous visibles en VOD ou streaming. Je regarde les films, je vous en parle ici, et je vous donne toutes les infos pour les retrouver ensuite. Ou plutôt, ça c'est ce que je fais normalement. Mais j'avais en tête, avant l'arrivée de l'été, quelque chose que j'ai déjà fait l'année dernière, un épisode spécial livre de cinéma. Je vous l'avais proposé en août l'année dernière, je vous le propose en juin cette année, comme ça si vous partez, vous aurez le temps de vous procurer le livre qui vous intéresse avant les vacances. Alors, on se met dans une ambiance un peu différente et on y va pour cet épisode spécial livre. Survivre à Hollywood de Richard Fleischer, publié chez Marest Éditions. Richard Fleischer est un cinéaste américain dont l'œuvre a balayé des styles et des époques très différents. Témoin du système des studios, puis de sa disparition, il a vécu en Europe, mais a toujours été, pour ainsi dire, au cœur de l'industrie hollywoodienne. Au travers des portraits qu'il dresse de ses différents collaborateurs ou collaboratrices, on se fait une idée précise de cet étrange monde qu'est celui du cinéma. Ce qui est formidable avec ce livre, c'est bien entendu le portrait de l'industrie hollywoodienne qu'il dresse en filigrane et au travers des différentes personnalités, de leur travers, mais aussi des moments absurdes, vécus, et de la logique toute particulière qui règne à Los Angeles. Les stars dont parle Fleischer sont actrices, producteurs ou dirigeants de studio. Et il y a quelque chose d'assez jouissif d'assister à des moments qui relèveraient de la comédie s'ils avaient été inventés et scénarisés. Comment gérer les égos des uns et des autres? Comment naviguer en eau parfois trouble? Comment contenter le studio et à la fois imposer une vision artistique? Tant de questions auxquelles Fleischer répond par son expérience, sa verve et son humour bien sûr, et Dieu sait qu'il lui en a fallu pour pouvoir, comme le titre l'indique, survivre à Hollywood. Enfin, et ce n'est pas rien, le bouquin m'a donné envie d'explorer et de découvrir l'œuvre de cet artiste plus ou moins oublié, issu d'ailleurs lui-même d'une famille d'artistes oubliés. Et quand on se plonge dans cette filmographie riche et dense, eh bien on n'est pas en reste. Quelques titres pour vous faire une idée, 20 milieux sous les mers, oui, celui de Disney avec Kirk Douglas, ma star, Soleil vert, Compulsion ou encore The New Centurions dont je vous avais déjà parlé dans Cinécure épisode 11. C'est disponible donc chez Marest Éditions et ça fait 434 pages.
T'as vu? Regarde. Une collection complète du livre de poche. 5000 volumes. Classés par ordre alphabétique. Carco, Céline, Colette. Que des grands. Tiens, viens là. Donne-moi un numéro de bouquin, n'importe lequel, tu vas voir, au hasard.
2147.
Un amour, Buzzati.
Conversation avec Claude Sautet de Michel Bouju, publié conjointement chez Institut Lumière et Actes Sud. Peu avant sa disparition, Claude Sautet accepte de donner une série d'entretiens à Michel Bouju pour revenir sur son œuvre et les conditions dans lesquelles il a dû travailler sur les différents films qui composent sa formidable filmographie. Le livre est enrichi de pas mal d'interventions, de textes, de témoignages qui entourent ce qui constitue son cœur, les entretiens avec Michel Bouju. On devine la complicité qui lie les deux hommes, le réalisateur de génie d'un côté et le critique et producteur de l'autre. Au travers de leurs discussions, on explore une branche du cinéma, celle que Sautet a presque créée de toutes pièces, et on côtoie des géants, Romy Schneider, Yves Montand, Samy Frey, Michel Piccoli, Léa Massari, Sandrine Bonner, Daniel Auteuil, Lino Ventura ou encore Emmanuel Béart. Les relations de Sautet avec ses acteurs ressortent plus que jamais comme la clé de son cinéma, ce cinéma si particulier, si personnel. Mais on comprend aussi mieux comment il travaillait le scénario avec notamment Jean-Loup Dabadie et Claude Néron, ses collaborateurs privilégiés. Les échecs, les réussites, les anecdotes, tout est abordé. Et en plus de ce beau portrait qui apparaît, on en apprend encore et toujours sur la façon dont on fait un film, de l'écriture au montage et jusqu'à la présentation au public, et surtout à la presse, une étape qui était souvent douloureuse pour Sautet. Un seul regret, le livre n'aborde pas, ou bien très peu, la période script doctor de Sautet, certainement comme c'est proposé dans la préface de Thierry Frémaux, parce que celui-ci n'avait pas du tout déclaré et qu'il craignait que le fisc ne le rattrape. On ne saura donc jamais l'importance de sa contribution sur bon nombre de films français, certaines des œuvres majeures du cinéma de l'Hexagone. Tant pis, on se contentera de se régaler des anecdotes et de la création de certains des films les plus iconiques de l'histoire. C'est édité conjointement par Actes Sud et Institut Lumière et ça fait 352 pages.
Claim your life. Learn to be an asshole. Don't
choose enough.
Don't be. Forgive me. still believe in this family, David, even if it's only you. But what they don't know is this. People will read again!
Yeah. I got it.
Va où il est impossible d'aller de Costa Gavras, publié chez Point. Costa Gavras parle de sa vie depuis son arrivée à Paris en 1955 jusqu'à aujourd'hui. On y croise évidemment des personnages importants pour le cinéma français, mais aussi et surtout des acteurs politiques majeurs, qu'ils soient en France ou partout ailleurs. En nous ouvrant les portes de sa vie privée, parfois avec des détails intimes, Costa Gavras nous aide à mieux comprendre son œuvre pour ceux qui la connaissent et nous donne envie de la découvrir si ce n'est pas le cas. Alors c'est un secret pour personne, moi j'adore Costa Gavras, je l'ai découvert avec Amen, que j'avais vu en salle à sa sortie. J'avais 18 ans et j'avais adoré le ton anticlérical du film, sa façon de réaliser et de traiter son thème de manière directe et sans fioritures. Z était sur ma liste de films à voir depuis très longtemps quand, sur un coup de tête, je me suis procuré cette autobiographie. Inutile de dire qu'après la lecture du bouquin, j'ai eu envie de me plonger complètement dans sa filmographie, ce que j'ai fait, et j'ai découvert, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire dans l'épisode 12 de Cinécure, un cinéaste qui ne sacrifie pas son cinéma aux propos hautement politiques et engagés qu'il tient. C'est donc chronologiquement qu'il nous emmène dans les moments importants de sa vie d'immigré, au cœur de ses combats et de ses engagements, mais aussi de sa vie de famille, de ses doutes, de ses réussites et de ses échecs. C'est aussi la réaffirmation, quelque part, que dans la vie, rien n'est écrit, et que c'est en déroulant le fil de nos existences que l'on se rend compte que les opportunités tiennent à peu de choses. Une rencontre, une discussion, un échange de regards, parfois, suffisent à nous faire basculer et à changer nos vies à jamais. Le livre est édité par Point et fait 528 pages.
I just finished it.
You just...
Yeah, I read it all in one read on the bus. It's lovely. I like the part about the guitars.
Thanks. Good. Well,
look,
listen, I'm...
No, I read it and I loved it. And there's only one way it can end. I mean, I don't have much background in literary anything, but this seems simple enough. I love your book. And I think you should finish it.
La vie est un choix de Yves Boisset, édité chez L'Abeille Plomb. Exactement sur le même mode que Costa Gavras, Yves Boisset revient sur sa vie, sa carrière et les choix qui ont modelé les deux. On y découvre un cinéaste français oublié, politique, et qui a dû se confronter plusieurs fois à des obstacles qu'il a toujours surmontés de façon surprenante. Souvent moqué, puisqu'on dit souvent que le moins intéressant chez Yves Boisset, c'est le film, Yves Boisset est parmi les cinéastes les plus oubliés du cinéma français. Si je le mentionne aujourd'hui et que je le fais juste après Costa Gavras, c'est que pour moi, leurs œuvres se rapprochent. Après une plongée dans ses jeunes années, Boisset nous emmène chronologiquement explorer sa carrière. Et là, on découvre non seulement un cinéaste politique et avec un propos parfois dur, mais surtout quelqu'un qui a dû, par la force des choses, combattre le système, parfois en faisant des choix qui le condamnaient à s'éloigner du cinéma. Pourtant, chaque nouvelle étape est vécue avec envie et une bonne humeur que rien ne semble attaquer. Le livre a donc valeur de remontant, de motivateur, et surtout, on y gagne pas mal de films à ajouter à nos listes de films à voir, avec des bijoux comme RAS, dont je vous avais déjà parlé dans Cinécure épisode 8, Dupont-la-Joie, un film à découvrir absolument, et qui malheureusement se trouve aujourd'hui difficilement, et tout un tas d'autres. J'aurais pu citer Le Prix du Danger, ou encore L'Attentat, qu'il est urgent de découvrir ou de revoir. Le livre est édité chez L'Abeille Plomb, et fait 480 pages.
You're privileged, Mr. Corso. Very few people ever set foot in here. This is my private collection. Some bibliophiles specialize in Gothic novels, others in books of ours. All my own rare editions have the same protagonist, the devil.
May I take a look?
Yes. That's why I brought you here.
Les Maîtres de Hollywood, tome 1 et 2 de Peter Bogdanovich, édité chez Capricci. Peter Bogdanovich, réalisateur de renom et acteur majeur du renouveau du cinéma américain, a d'abord été critique, journaliste et aussi passeur. Il a notamment permis à un certain nombre de chefs-d'œuvre d'être découverts et redécouverts. Ces deux tomes sont la somme des entretiens qu'il a eus avec ceux qu'il estime être les maîtres de Hollywood, les cinéastes qui ont fait son âge d'or. Le livre s'ouvre sur une mini-autobiographie qui nous permet de resituer Peter Bogdanovich en tant que journaliste, critique, mais aussi artiste. Et comme, à part parler avec d'autres cinéastes, il n'y a rien que Bogdanovich aime plus que parler de lui, ça peut être un frein à votre lecture. Mais ne vous laissez pas intimider, passez ces pages s'il le faut, ne soyez pas respectueux, et allez fouiller les entretiens qui vous inspirent, qui vous ont donné envie d'acheter le livre. Et avec John Ford, Howard Hawks, Alfred Hitchcock, Eric von Stroheim, ou encore Fritz Lang, vous avez de quoi faire. On y découvre donc les modes opératoires des uns et des autres, les conseils qu'ils distillent au fil de leurs entretiens sont inestimables. Parfois, vous tomberez sur un entretien lunaire, extrêmement surprenant, et même comme ça, mystérieusement, la magie opère et ça vous donne envie de découvrir le réalisateur en question. Les deux tomes sont aussi remplis d'anecdotes sur les actrices, les producteurs, je n'inclus pas de femmes parce qu'il n'y en a pas malheureusement, les scénaristes, bref, tout le système hollywoodien est convoqué par certains de ces acteurs majeurs qui sont interviewés très précisément sur leur œuvre. Le gros avantage de Bogdanovich étant qu'il est un énorme nerd du cinéma et qu'il est capable de parler avec détail d'une scène dans un film qui pour le grand public serait obscur. Avantage qui nous offre à nous la possibilité non seulement de mieux comprendre comment le cinéma est construit par ces monstres sacrés, mais aussi de le découvrir si tant est que vous avez une médiathèque proche de chez vous. C'est d'ailleurs ma recommandation pour ce bouquin, lisez-le avec un carnet de notes sur lequel vous noterez les films que vous voulez découvrir, ou alors la watchlist IMDb ou Letterboxd. Personnellement, ma liste de films à voir a augmenté de 25% après lecture. Les deux tomes sont édités chez Capricci et il y en a pour 892 pages réparties donc en deux ouvrages.
Dear Mr. Dufresne, in response to your repeated inquiries, the state has allocated the enclosed funds for your library project. This is $200. In addition, the library district has generously responded with a charitable donation of used books and sundries. We trust this will fill your needs. We now consider the matter closed. Please stop sending us letters.
Mémoire d'un enfant du cinéma de Marc Esposito, publié chez Robert Laffont. Marc Esposito, fondateur du magazine Première en France, nous trimballe à travers sa jeunesse, puis les coulisses de la création de l'un des médias les plus suivis sur le cinéma. Au travers de différentes anecdotes, on va plonger au cœur du cinéma français, ses personnalités fortes, ses rivalités, ses fragilités. Ne vous laissez pas influencer par la couverture absolument ignoble du bouquin, qui est un crime contre l'humanité et contre quiconque a un peu de bon goût. Elle est tellement moche que je l'ai pris personnellement. C'est un piège qu'il faut éviter, autant qu'il faut faire abstraction du fait que Marc Esposito a réalisé Le Cœur des Hommes. Une fois que vous avez fait preuve de l'abnégation nécessaire, vous découvrirez un des hommes de l'ombre du cinéma français. Quelqu'un qui a eu la chance et le luxe non seulement de vivre une relation particulière avec toutes les personnes qui ont compté pour le cinéma français, mais qui, en plus, l'a fait sans jamais plier ni reculer sur ses goûts personnels. Là aussi, un peu à la manière des livres de Gavras ou Boisset, on commence par sa jeunesse, sa découverte du cinéma, puis on le suit dans des choix qui ont été déterminants, parfois même clivants. On y découvre un homme qui, en plus d'avoir, semble-t-il, un don pour l'écriture et le partage autour du cinéma, a fait preuve de courage et même d'inconscience, parfois, pour continuer à vivre et à faire vivre sa passion. Impossible de ne pas être emballé par les anecdotes qu'Esposito nous dévoile au fil de son récit et qui mettent en scène des personnalités bien connues et encore présentes pour la plupart. On a vraiment la sensation d'assister à l'avènement de tout un pan de notre culture avec une place de choix. Le livre est édité chez Robert Laffont et fait 552 pages. Et voilà, l'épisode 14 de Cinécure est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre choix, c'est très important pour le référencement. Je vous encourage aussi à parler du podcast à un maximum de gens autour de vous, on est nombreux à aimer le cinéma. Cinécure est un podcast créé par moi, Charles-Edouard Wasselin, produit par Adrien Larousset et distribué par Vaisseau Hypersensas. Je les remercie tous de leur patience et de leur bienveillance. Je vous rappelle que sur le Discord du Vaisseau Hypersensas, vous trouverez un channel Cinécure où nous parlons de cinéma en général et parfois des films recommandés ici en particulier. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est très gentils et toujours contents de voir de nouvelles têtes. La liste des films recommandés dans tous les épisodes de Cinécure est toujours dispo sur Letterboxd, vous la trouverez dans mon profil en description de cet épisode. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram si vous ne le faites pas déjà, aussi en tant que Charles Eddy. On se retrouve par ailleurs le mercredi 8 juin sur la chaîne YouTube de Cinécure pour une nouvelle vidéo, si je n'ai pas trop de retard. Le mercredi 15 juin, ici même, pour un nouvel épisode de Ciné Essentiel. Le mercredi 22 juin pour un nouvel épisode de Ciné Explore. Et comme juin est un mois riche en mercredi, vous aurez droit à un autre épisode de Ciné Explore le mercredi 29 juin. Voilà, vous savez tout. D'ici là, prenez bien soin de vous, découvrez plein de films. Ciao !